France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
C'est une réforme particulièrement contestée qui arrive cet après-midi à l'Assemblée. Les députés vont commencer l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique. Les 9 syndicats du secteur s'y opposent. Ils ont organisé une journée de grève la semaine dernière. Bonjour Émilie Chalas.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche, rapporteure de ce texte. Alors face à cette unanimité syndicale qui est plutôt rare, est-ce que vous maintenez la réforme ?
Oui, bien sûr qu'on maintient la réforme. Ça fait 20 ans qu'un certain nombre de fonctionnaires l'attendent, y compris au sein des syndicats. Les revendications sont certes là dans une apparence, j'allais dire, d'osmose côté syndical, mais on sait bien que selon les syndicats, la position sur le texte va varier quand même beaucoup. Et effectivement, c'est une réforme qui compte, c'est une réforme qui va permettre de redonner du souffle aux carrières des fonctionnaires et de responsabiliser les employeurs publics. Donc c'est quelque chose qui est très attendu et auquel on ne renoncera pas.
Comptez-vous tout de même apporter des modifications à ce texte ?
Oui, bien sûr. Alors, le texte a déjà beaucoup évolué en commission des lois. La semaine dernière, tout à fait. Il a encore évolué en séance. L'objectif pour nous est bien, dans la majorité, de veiller à ce principe de base que l'on a depuis 2 ans maintenant, de dire libérer, oui, mais aussi protéger et unir, ne pas créer des failles de conflit entre, par exemple, pour ce texte, les fonctionnaires et les contractuels, et de bien avoir un dispositif qui soit équitable, y compris entre les contractuels du privé et les contractuels du public, en rétablissant, par exemple, la prime de précarité.
Alors justement, cette prime de précarité, elle sera de quel montant, quelle durée, pour des contrats de quelle durée, à partir de quand ?
Alors, jusqu'à maintenant, la prime de précarité pour les contractuels, quelle que soit la durée de ce contrat, n'existait pas dans la fonction publique. Or, on a aujourd'hui 20% à peu près de contractuels et on sait que parmi ces contractuels, un certain nombre sont en situation de précarité. C'est un voile qu'il faut lever sur ces situations dans la fonction publique et auquel il faut répondre. Donc, cette prime de précarité va concerner les contrats inférieurs ou égaux à 1 an. Là où, si vous voulez, on va avoir des personnels en situation de renouvellement de contrats mois par mois ou entre les vacances scolaires, évidemment les contrats horaires aussi, et ça concerne bien sûr généralement des femmes sous ou peu qualifiées en charge de famille.
Et elle va être de quel montant cette prime ?
10% du montant brut perçu lors du contrat concerné, le même dispositif que dans le privé.
Et elle pourrait entrer en vigueur à partir de quand ?
2021 je crois, on va en discuter en séance.
Alors vous le disiez, des contrats de moins d'un an, la CFDT elle aimerait que ça concerne tous les contractuels, c'est pas négociable ?
Non, c'est pas négociable à deux titres. D'abord, je crois que la CFDT se réjouit quand même de ce dispositif puisque ça fait un moment qu'elle l'attendait et qu'elle le demandait. Alors évidemment, on peut toujours plus, mais c'est déjà un très très bel acquis. Ça va coûter la modique somme quand même de 600 millions d'euros qui vont être distribués à ces agents en situation de précarité. Et justement, c'est le deuxième enjeu. Nous, il nous semble que la précarité, c'est d'abord ces personnels qui sont sur des contrats annuels, qui sont sur des contrats horaires ou en répétition mois par mois pendant les vacances. Il s'agit de qui, soyons précis, des agents du périscolaire qui s'occupent de nos enfants, des femmes de ménage que l'on ne voit pas, des agents horaires qui vont tenir des caisses ci ou là, à la piscine, au théâtre municipal, etc. C'est ces personnels-là que l'on cible. Et on estime, j'estime et je l'assume, que quand on a une visibilité de plus d'un an et qui va jusqu'à 6 ans, puisqu'on peut avoir des contractuels jusqu'à 6 ans dans la fonction publique demain grâce au texte, on n'est pas en situation de précarité, on va être sur des postes plutôt qualifiés, avec des perspectives à 4-5 ans, c'est pas là la situation de la précarité, c'est pas là la réelle précarité.
Restons sur ces contractuels puisque le texte a pour but aussi de permettre d'augmenter leur nombre. Pourquoi souhaitez-vous recourir davantage aux contractuels ?
Alors l'objectif n'est pas un objectif politique chiffré. On entend souvent, il y avait la question des moins 120 000 dont on s'est exonéré et grand bien à faire à la fonction publique parce qu'on n'approche pas un texte qui concerne 5,5 millions de Français en se disant bon au fait les gars il faut supprimer 120 000 postes. Non, je crois que c'est se tromper de stratégie et je suis à vrai dire soulagée ou en tout cas rassurée que le président de la République se soit affranchi de cet objectif. Et ensuite, on n'a pas d'objectif non plus. Aujourd'hui, il y a 20% de contractuels dans la fonction publique. Il n'y a pas d'objectif demain d'être à 30, 40, que sais-je, 70, qui est le grand fantasme d'une partie des syndicats d'ailleurs. Non, l'idée des contractuels, il est double. C'est à la fois de permettre cet échange avec le public et le privé, entre le public et le privé, pour se nourrir des expériences réciproques d'une part, mais aussi parce que les employeurs publics vivent notre temps contemporain qui s'accélère, qui génère des besoins de métiers spécifiques dont les compétences n'existent pas forcément dans les concours tels qu'ils existent aujourd'hui. L'informatique, très simplement, c'est l'exemple qu'on reprend souvent. On dématérialise de plus en plus, on numérise, etc. C'est des métiers aujourd'hui qui ne font pas l'objet d'un concours dans la fonction publique. Donc, c'est des compétences extérieures dont on a besoin. Mais il y a aussi les situations où on a besoin de métiers qui existent dans la fonction publique. Je pense par exemple au métier d'urbaniste, qui est mon métier d'origine, pardonnez-moi, mais en l'occurrence, je maîtrise bien le sujet, et qui, par exemple, dans une commune, va être un besoin pour 2 ans, pour le temps de suivre, par exemple, un programme d'urbanisme métropolitain, par exemple, mais dont on ne va pas avoir besoin pour 40 ans. Donc, c'est aussi des compétences, encore une fois, qui existent dans les concours, mais dont on va avoir besoin ponctuellement. Et c'est à ça que répond cette souplesse de l'apport des contractuels. Mais ce n'est pas un objectif politique en soi.
Mais cette souplesse, est-ce que ça ne risque pas, pour en revenir à notre premier sujet, d'augmenter la précarité ?
Alors, on ne l'espère pas, bien évidemment, pour la simple et bonne raison que la prime de précarité va venir surenchérir le coût de ces petits contrats hyper précaires. Et donc, on estime que les employeurs qui n'en ont pas conscience aujourd'hui vont conscientiser cet état de fait envers leurs agents pour mieux penser leur stratégie de recrutement et penser des emplois sur lesquels on peut vivre dignement. Donc évidemment, sur ces contrats de moins d'un an, on espère qu'il va y avoir un effet positif. Et pour les contrats entre 1 et 6 ans, eh bien, écoutez, aujourd'hui, les nouvelles générations de 25 à 35 ans ne pensent plus de la même façon que nous en espérant un CDI avec un seul métier toute sa vie ou être titulaire. Les fonctionnaires, comme des contractuels, vont avoir 2-3 métiers dans leur vie, et une visibilité à 5 ans, c'est déjà ça de gagner pour cette jeunesse.
Enfin, 2-3 métiers dans sa vie, oui, mais on peut aussi enchaîner les CDI et choisir de partir plutôt que d'enchaîner les contrats courts précaires et de ne pas savoir quoi faire entre 2 contrats.
Oui, mais ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui...
C'est quand même plus stable quand on a des CDI. Vous n'allez pas me dire que les jeunes d'aujourd'hui ne rêvent pas de CDI.
Non, beaucoup de jeunes, pardon de vous contredire en partie, les jeunes de 25 ans et 30 ans qui sortent d'école aujourd'hui ne cherchent plus, ne courent plus après le CDI ou la titularisation, je vous le confirme. Et on voit en Europe du Nord notamment, c'est beaucoup de CDD de 5 ans à peu près, et ils vont de mission en mission, et c'est ça qui les intéresse. Le souci qu'on a en France, c'est que les banques notamment, puisque c'est souvent l'argument qu'on m'oppose évidemment, c'est dire oui, mais du coup, ils ne pourront pas avoir accès à un prêt bancaire pour acheter un appartement, etc. C'est pas faux en France, mais il faut que cette culture se transforme, parce que c'est comme ça que la société avance aujourd'hui.
Autre temps fort de cette réforme de la fonction publique, il y a l'objectif d'harmoniser la durée de travail. Tous les fonctionnaires aujourd'hui ne travaillent pas de la même durée ?
Oui, alors ça c'est vraiment un sujet qui m'a, pour être franche, un poil agacé, parce qu'en réalité c'est un sujet sur lequel on s'appuie pour faire du fonctionnaire bashing depuis une dizaine d'années. C'est assez insupportable parce que 99% des agents, et je les ai vus au quotidien avant d'être députés, sont investis avec conviction et ferveur sur leurs responsabilités quotidiennes. Ce sont nos petites chevilles ouvrières du quotidien et de la proximité, et donc évidemment c'est toujours un souci. Il y a une infime partie des fonctionnaires d'État qui effectivement ne sont pas aux 35 heures dans leurs accords de service et administratifs, et dans la fonction publique territoriale également. Il ne faut pas en faire une généralité, et évidemment on va régulariser tout ça et harmoniser, ça va de soi, mais en soi c'est pas de dire que les fonctionnaires ne travaillent pas 35 heures par semaine.
Merci beaucoup Émilie Chalas, rapporteure de cette réforme qui arrive cet après-midi à l'Assemblée. Vous êtes députée La République En Marche.
Merci, bonne journée.